Donc nous continuons notre lecture et méditation de ce texte d'Isaïe 22. Nous allons passer maintenant aux deux autres sens traditionnels qui sont l'interprétation anthropologique ou morale et l'interprétation analogique. Alors si vous n'avez pas, écouté les deux autres enregistrements consacrés à l'interprétation littérale et l'interprétation allégorique, il est fort souhaitable de le faire maintenant pour mieux comprendre ces interprétations qui vont vous être données maintenant. Je vous rappelle aussi qu'il est plus que souhaitable d'écouter les enregistrements ou de lire les pages web consacrées à l'interprétation de l'Église, de la parole de Dieu, pardon, de la Bible, à la lumière de la tradition de l'Église. Autrement, vous aurez du mal à comprendre ce que veut dire anthropologique, analogique, etc., allégorique. Alors, je vous le rappelle, c'est la première fois que vous prenez ce type d'enregistrement, que ici nous avons les commentaires courts qui visent aussi à illustrer ce que sont ces interprétations dites traditionnelles. Alors il y aura une lecture du texte, des temps de silence, des prières, et puis la lecture des deux interprétations avec aussi relecture du texte biblique, silence et prière. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas arrêter l'enregistrement tant que vous n'entendrez pas cette phrase, si je puis dire, fin de l'enregistrement. Parce que les temps de silence font partie intégrante de ces enregistrements. Ils seront destinés à favoriser votre prière. Alors, donc je vais lire le texte qui va faire l'objet du commentaire. Ce texte est tiré d'Isaïe 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet, qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. Donc je vous propose une petite prière qui va nous préparer à l'écoute des commentaires. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu aies écarté tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot de celui qui écrit dans le psaume « Ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta parole ». Donc voici pour commencer l'interprétation morale ou anthropologique centrée sur la vie quotidienne. En référence à l'interprétation allégorique, ce passage nous invite clairement à ne pas nous fier à nos propres forces, la loi ou l'Ancien Testament. Au contraire, il nous faut agir qu'après avoir été nourris de la grâce du Christ à travers la prière notamment. Ainsi nous sommes appelés à ne fonder nos actions qu'en relation à l'espérance que la grâce du Christ nous précède et nous soutient dans nos missions, elle-même dictée par Jésus dans un cœur à cœur que seul un lien d'amitié créé par son amour gracieux peut permettre. Oui, vraiment, Seigneur, eh bien, nous voulons cette amitié. Et nous nous confions toujours davantage à ton amitié, Jésus. Apprends-nous vraiment à avoir cet esprit d'abandon et de prière dans ce que nous faisons dans la vie. Amen. Je vous propose maintenant toujours l'interprétation anthropologique ou morale, mais centrée sur la vie intérieure. Comme nous venons de le voir, nous devons agir nourris par l'espoir que la grâce du Christ nous précède en nous et en les autres. Fort de cet espoir, nous sommes appelés à changer notre regard sur nos échecs, ainsi que sur les autres, en passant de l'impatience, du découragement, etc., à la patience et à la persévérance. Cette espérance est fondée sur le fait que Shebna, sera remplacé tôt ou tard par Eliakim. Ainsi, nous pouvons comprendre que la grâce divine établie par Dieu en nous et en les autres, Eliakim, bien qu'étant enfouie dans un premier temps au plus profond de tel ou tel aspect de notre personnalité, ou dans le cœur de telle ou telle personne loin de Dieu, finira par grandir pour supplanter Shebna, qui représente nos propres forces, notre moi sans Dieu. Ce n'est pas sans rappeler la parabole du grain de moutarde, Marc 4, versets 26 à 32. Soyons convaincus que cette grâce grandira dans nos cœurs et dans celui des autres, à la mesure de notre intercession et de notre charité, qui doivent marcher main dans la main pour accompagner le travail du Christ dans le monde invisible des cœurs. Nous avons ici tout le sens de l'incarnation. Dieu veut sauver les hommes par les hommes. Nos intercessions et actes de charité ou efforts, quand cela est dirigé vers nous-mêmes, sont comme un prolongement de la grâce divine déversée à la croix par l'homme Jésus sauvant l'humanité. Confère Colossiens 1, verset 24. Ce salut de l'homme par l'homme, où un homme librement accepte de se faire canal de la grâce divine pour lui et ses frères, est le moyen pour Dieu d'agir en nous et les autres, tout en respectant la liberté humaine. Nous avons dans ce respect de Dieu pour notre liberté la marque de l'amour par excellence. Notons que cette voie qui privilégie le résultat à long terme de la prière, de la grâce, de l'amour et du pardon sur l'immédiateté des moyens humains, force, vengeance, se défendre, se justifier, etc., même si ces moyens peuvent paraître légitimes, produit selon le texte un effet bien plus profond et durable, puisque d'Eliakim il est dit qu'il sera rendu stable comme un piquet enfoncé dans un sol ferme. On compare même Eliakim à un trône de gloire. Voilà toute l'espérance du chrétien qui doit avoir assez de foi en l'action de son Seigneur dans les cœurs pour agir en conséquence, ce qui implique, comme nous venons de le voir, renoncement et sacrifice à court terme pour un résultat plus tangible à long terme. Oui, Seigneur, vraiment, nous te demandons cette patience, cette persévérance, nourrie par ce regard de foi en ton action incarnée en nous-mêmes par rapport à nos défauts et par rapport aux défauts de nos frères dans leur propre cœur. Oui, Seigneur, augmente en nous patience, persévérance, amour et foi. Amen. Et Seigneur, augmente aussi par rapport à nous-mêmes la confiance en ta miséricorde qui aura le dernier mot, et que ceci balaie notre culpabilité stérilisante et nos découragements et nos déceptions par rapport à nos péchés. Et que fort de cette conviction en ta miséricorde, nous redoublions de prières et d'efforts. Amen. Abordons maintenant la dernière interprétation, celle dite anagogique. Shebna, on va aborder donc cette interprétation anagogique avec un regard plutôt centré sur la mort et la vie éternelle. Shebna, c'est cette vie terrestre qui finira par être supplantée par la vie éternelle, Eliakim. Car ne nous y trompons pas, notre vraie vie, la vie définitive, n'est pas de ce monde. C'est bien en référence à Eliakim que l'on dit « stable comme un piquet qu'on enfonce ». C'est bien Eliakim que l'on compare à un trône de gloire. Confère le trône de gloire de l'Apocalypse où se trouvent le Père et le Fils, l'Agneau. C'est ce monde nouveau, cette nouvelle création que Jésus est venu nous apporter gratuitement. Nous devons donc vivre cette vie en fonction de l'autre. Nos priorités doivent s'orienter vers les valeurs du royaume, qui sont amour et service, et non exaction, richesse, égoïsme, etc. De même, ne pensons pas que tout doit se régler en ce monde. Ce n'est que dans l'autre qu'Eliakim chassera définitivement Shebna. Tant que nous sommes dans cette vie, il y aura des Shebna avec son cortège d'injustice. Ainsi en va le respect par Dieu de la liberté humaine mal utilisée. Il ne faut donc pas se laisser ébranler par les justices ici-bas, ou pire encore, les imputer à Dieu. Seul l'invisible du ciel est le monde où Dieu exerce pleinement sa liberté souveraine. C'est précisément la raison pour laquelle Jésus est venu, non pas changer ce monde, mais nous ouvrir les portes de l'autre monde, confère Matthieu chapitre 10 verset 34 et Romains chapitre 8 verset 18. De même, n'oublions pas que l'efficacité de nos prières ne s'arrête pas aux portes de la mort. Le poids des intercessions que nous avons faites pour telle ou telle personne franchit la mort pour peser dans la décision que cette même personne prendra en conscience devant Dieu. Ce n'est parfois que dans ce face-à-face après la mort que Shebna finira par céder la place à Eliakim, confère 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. Cette pensée doit nous consoler et nous pousser à ne pas baisser les bras quand la grâce divine, accompagnée de nos prières et de nos efforts, tarde à se manifester en cette vie, chez telle ou telle personne, ou bien encore en nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous à vivre cette vie en fonction de la vie du royaume, et surtout, apprends-nous la patience par rapport à ton action qui dépasse infiniment notre conception du temps. Ensuite, Seigneur, nous continuons à prier, y compris pour les gens qui sont déjà passés de l'autre côté, pour qu'ils aient pris ou qu'ils prennent la bonne décision quand ils te rencontreront dans ce face-à-face. Amen. Et voici l'interprétation toujours anthropologique, mais orientée vers la fin des temps. Ce monde finira par céder le pas à un nouveau ciel et à une nouvelle terre, confère Apocalypse 21, chapitre 21, verset 1. Dieu triomphera du mal, Shebna sera vaincu, et Dieu établira son règne, confère Eliakim, qui veut dire celui que Dieu établit, et ce malgré les apparences. Alors nous et l'Église ne perdons pas courage, mais persévérons dans la justice de la prière, sûrs que Dieu, en son Fils, plantera son trône de gloire comme un piquet dans un sol ferme. Il n'est donc pas demandé à l'Église de faire du chiffre ou de changer ce monde, mais bien de rester fidèle à son Seigneur par la charité et la prière, sachant que la grâce divine travaille lentement mais sûrement, et qu'à elle seule appartient le résultat. Oui, Seigneur, donne à nous et à ton Église une vision pleine d'espérance face à l'avenir de ce monde. Amen. Je vous propose une relecture du texte. Alors, parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ce jour-là j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. Oui, Seigneur, vraiment, apprends-nous toujours à nous abandonner. Que ce soit par rapport au monde invisible des cœurs, où tu travailles, oui, dans notre cœur, dans celui de nos frères, ou vraiment en ce monde, où tu travailles aussi vers la plénitude de la fin des temps, et que ce regard vraiment centré sur le monde invisible, le ciel ou le monde des cœurs, vraiment, Seigneur, nous apprenne toujours davantage à être patients, persévérants et aimants, des êtres remplis de foi et d'espérance. Nous voulons être ces êtres, Seigneur. Nous voulons pour cela vraiment toujours nous nourrir plus d'une relation personnelle d'amitié avec toi. Oui, viens, Esprit Saint, dilater nos cœurs, oui, pour faire toujours davantage de place à Jésus. Amen. Fin de l'enregistrement.